Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire sur Chiz 94.3. Emmanuel Bernier au micro. Je suis ce soir en compagnie de ma chère collègue Julie Franqueur à la co-animation.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julie. Ce soir, une entrevue sur un ouvrage qui vient tout juste de sortir sur... on sait qu'il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur la Nouvelle-France, mais on a un auteur ici qui approche l'histoire des contacts entre Amérindiens et Européens d'une nouvelle manière, moins avec les sources écrites qu'avec ce qu'on va appeler la biographie des objets. On va en parler plus longuement durant l'émission. Alors, pour nous en parler, on a le professeur Laurier Turgeon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être des nôtres ce soir.
Merci pour l'invitation.
Et donc, votre livre qui vient de sortir, donc ça fait quoi, quelques semaines chez Belin Éditeur?
Oui, il est sorti, il est paru cet été.
Cet été, exactement.
Juillet, au mois de juillet.
Il est disponible au Québec dans toute bonne librairie.
Oui, absolument, oui, depuis le mois d'août. Oui,
et d'ailleurs, on en profite pour... il y a le lancement demain aussi, je crois.
Oui, il y a le lancement à la librairie La Liberté sur la route de l'église à 17h.
Exactement. Bon, une invitation est... est lancée. Et quelle est la genèse de cet ouvrage? Bon, vous êtes connu beaucoup pour l'aspect du patrimoine. Vous enseignez beaucoup cet aspect-là à l'université. Bon, la culture matérielle aussi, beaucoup les liens entre le patrimoine, le numérique. Mais on vous connaît moins ce côté historien de la Nouvelle-France. Alors, d'où ça vient cet intérêt?
Oui, alors, ça remonte à... assez longtemps. J'avais fait une thèse de doctorat en histoire à l'Université de Bordeaux et une thèse qui portait sur le 18e et le 17e, 18e siècle, sur les activités basques dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent. Et puis, à la fin de ces recherches, j'avais commencé à découvrir des documents du 16e siècle, grâce à un professeur à l'Université de Bordeaux qui s'appelle Jacques Bernard, qui m'avait mis sur la piste et qui était un spécialiste d'histoire médiévale, mais qui avait dépouillé, qui connaissait très bien les archives, notamment les archives notariales de Bordeaux, et qu'il avait dépouillé jusque dans les années 1520 parce qu'il travaillait sur la fin du Moyen Âge, donc sur le 15e siècle surtout, mais il avait un peu débordé. Et c'est lui qui m'avait dit, il y a quand même beaucoup d'archives qui concernent des armements pour la pêche à la morue à Terre-Neuve. Puis il a dit, j'ai trouvé aussi quelques références à la chasse à la baleine. Et puis il m'avait dit que ça pourrait être intéressant d'exploiter ces fonds. Alors j'avais gardé ça à l'esprit. Et puis quelques années plus tard, j'ai commencé tranquillement, pas vite, à regarder ces documents. Et c'est venu en fait d'une grande fascination pour ce siècle parce qu'on ne connaissait pas très bien le 16e siècle. J'avais lu l'ouvrage classique de Marcel Trudel sur le 16e siècle au Canada, les 20 tentatives. C'est vrai que, on connaissait le 16e siècle, notamment par le biais des voyages de Jacques Cartier. Ensuite, un peu André Thevé, qui était cosmographe du roi en France, qui avait consacré des ouvrages à la France antarctique, l'histoire atlantique de la France, deuxième moitié du 16e siècle. Il parle un peu du Canada, mais il n'est jamais venu. C'était un cartographe qui vivait en France. Et donc, on connaissait assez mal ce siècle, et c'est ça qui m'a vraiment motivé. C'était d'essayer de mieux comprendre les activités. Bon, comme tout le monde, je pensais que entre les voyages de Jacques Cartier et ceux de Champlain, il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé. On sait que les neveux de Cartier, les frères Noël, étaient venus dans les années 1580 parce que Marcel Trudel avait trouvé des documents là-dessus. Des historiens français aussi avaient travaillé un peu sur ces... les historiens français qui travaillaient sur le commerce maritime avaient repéré quelques documents. On avait des cartes aussi. Il y avait un assez bon corpus de cartes émérite du 16e siècle en France, notamment de l'école de Dieppe, où les cartographes s'étaient très fortement inspirés des voyages de Jacques Cartier pour dessiner ces cartes. Mais on ne connaissait pas très, très bien. Je dirais que mon intérêt est venu donc de la rencontre, la découverte des actes notariés de Bordeaux, et plus j'exploitais ces fonds, plus je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de documents. Et puis aussi des archéologues, parce que j'avais été en contact avec des archéologues qui travaillaient sur des sites amérindiens, notamment du 15e, 16e siècle, et qui trouvaient beaucoup d'artefacts européens sur ces sites. Et eux étaient très curieux de savoir d'où ils venaient. Ils essayaient d'établir une chronologie, parce qu'en archéologie, c'est pas toujours facile de pouvoir dater avec précision l'apparition de ces objets sur ces sites. Puis il n'y avait pas juste les archéologues canadiens, les Américains aussi trouvaient du matériel sur les sites iroquois de l'État de New York, par exemple, ou même au Massachusetts. Et donc là, j'ai réalisé que finalement, notamment à travers les travaux des archéologues, qui avaient quand même beaucoup de matériel, qu'eux avaient tendance à dater du 16e siècle, mais bon, avec des méthodes qui ne sont pas toujours très, très précises. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment stimulé. Et puis, j'ai pendant plusieurs années dépouillé les actes notariés de Bordeaux petit à petit. Plus ça allait, plus je me rendais compte qu'il y avait énormément de choses. Et surtout à partir des années, jusqu'en 1540, pas beaucoup de documents, mais à partir de 1540 et surtout là en 1550, c'est vraiment une explosion, je dirais, de documents. Et là, on commence à trouver des centaines de contrats par année, des centaines de contrats. Et ça dure pendant toute la deuxième moitié du siècle, jusque dans les années 1590. Et puis là, on a pu identifier un très grand nombre de navires qui étaient armés pour la pêche à la morue, la chasse à la baleine et la traite avec les Autochtones.
Donc, on s'aperçoit finalement que si certains désintérêts durant ces années-là, des hautes instances de la monarchie pour l'exploration en Amérique, il y a des marchands qui s'intéressent là, à cette partie du monde.
Oui, absolument. On a dépouillé aussi les actes notariés parce que c'est à peu près les seules archives écrites qui existent pour cette époque. Il n'y a pas grand-chose en dehors des notaires. Mais à Bordeaux, on avait la chance d'avoir un corpus qui avait été très, très bien conservé. C'est probablement les actes notariés les mieux conservés de France, avec peut-être le minutier central de Paris, puis à Marseille. Mais à Bordeaux, on avait même trouvé des références dans les actes notariés eux-mêmes, comme quoi le roi autorisait 40 notaires à pratiquer à Bordeaux en même temps. Et pour presque toutes les années du 16e siècle, on a 40 et des fois même plus que 40 notaires, les archives de ces 40 notaires qui sont conservés. Il y a même certaines années, on en a 43, 44, ce qui nous laisse croire qu'il y avait plus de notaires que ceux qui étaient officiellement autorisés par la monarchie. Ça veut dire qu'il y a eu une très, très bonne conservation de ces archives. On commence à trouver des centaines d'actes notariés qui portent sur l'armement de navires pour la pêche à la morue, surtout. Un peu pour la chasse à la baleine, puis après, un peu plus tard, on commence à trouver des contrats qui portent sur la traite des fourrures. Et c'est toujours des contrats qui sont destinés à faire des emprunts pour acheter des marchandises de traite ou encore plus fréquemment pour acheter des vivres pour les membres de l'équipage, du biscuit de mer, du vin. Bordeaux est un grand port, un grand producteur de vin. Donc, ils viennent souvent à Bordeaux acheter du vin. Et puis, des salaisons aussi pour nourrir les membres de l'équipage, des voiles de navire, etc. C'est ça, on a vraiment beaucoup. On a dépouillé à peu près 6500 contrats pour le 16e siècle. La plupart à Bordeaux, mais on a aussi trouvé à La Rochelle. On a exploité les fonds de La Rochelle pour les années 1550. Rouen aussi, le Havre-Rouen, et un peu à Paris. Il y a aussi des traces de ces activités à Paris, notamment en ce qui concerne la traite des fourrures.
Puis qu'est-ce qui différencie votre étude des autres études portant sur les contacts entre Amérindiens et Européens pour cette période-là?
Oui. Alors, j'ai essayé d'innover un peu, c'est-à-dire par mes approches. Donc, ma première intention, c'était de combler un vide au niveau de l'histoire du Canada et de l'Amérique du Nord pour le 16e siècle. Et puis, j'ai voulu étudier les contacts entre les Français et les Amérindiens parce que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait beaucoup de ces objets qui se trouvaient sur les sites amérindiens de cette époque. Et on a retrouvé aussi dans les archives notariales des références à l'achat de marchandises pour la traite au Canada, au Terre-Neuve ou au Canada. Des fois, le mot Cap-Breton apparaît, Gaspé. Enfin, il y a quelques noms de lieux qui apparaissent dans la deuxième moitié du... des noms de lieux précis, là, dans la deuxième moitié du 16e siècle. Mais je me suis rendu compte que finalement, cette activité portait beaucoup sur l'échange. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'appréhender l'activité par le biais de l'échange d'objets, donc d'objets matériels. C'était plus difficile d'identifier des personnes. Dans les actes notariés, c'est pas toujours facile d'avoir un suivi sur les personnes, mais en combinant les résultats des recherches dans les actes notariés qui parlaient souvent d'achat de marchandises, de produits, et les résultats de fouilles archéologiques, j'ai pu commencer à retracer le parcours de ces objets. Je peux les voir partir de Bordeaux, arriver ici, pour voir où ils allaient, comment ils étaient utilisés. Et donc, j'ai décidé d'axer mon étude sur les objets plutôt que les personnes. Et puis, j'ai voulu aussi tenir compte, je me suis rendu compte que, c'est un échange. Donc, l'échange comprend deux parties, à la fois les Français et les Amérindiens. Et la plupart des histoires que nous voyons sur les Amérindiens ou encore sur l'Europe de cette époque, généralement, on va aborder la question du côté des Européens pour étudier cette activité comme un commerce, le commerce maritime, le commerce, la pêche à la morue, le commerce des fourrures. Donc, les historiens ont tendance à étudier, cette activité dans la perspective européenne, comme un commerce, une activité commerciale. Et les archéologues qui ont fouillé les sites amérindiens ou même les sites coloniaux de l'époque de la Nouvelle-France ont tendance à étudier ces objets dans la perspective amérindienne pour essayer de mieux comprendre les modes de vie des Amérindiens, comment ils ont utilisé ces objets, etc. Alors là, je me suis dit, je vais essayer de marier les deux et d'utiliser une approche qui est historique, mais aussi archéologique et ethnologique, et voir, d'essayer d'étudier l'échange dans les deux sens, c'est-à-dire de voir comment les Européens, qu'est-ce que les Européens ramenaient et comment ils s'en servaient, et comment est-ce que, du côté des Amérindiens, c'est aussi qu'est-ce qui attirait les Amérindiens, c'est quoi les produits qui étaient attractifs pour les Amérindiens, et puis d'essayer de comprendre comment ils les utilisaient. Alors ça, c'est une autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'était d'essayer d'aller un peu au-delà d'une étude économique et commerciale pour comprendre les usages symboliques de ces objets, les usages sociaux et symboliques de ces objets, et de l'aborder un peu plus dans une perspective, je dirais, de l'anthropologie de la consommation, plutôt que de l'histoire maritime ou commerciale plus classique.
Et donc, cette exploration du trajet que font les objets, c'est ce que vous qualifiez de biographie des objets?
Oui, absolument, oui. Alors, c'est une méthode qui a été développée par des anthropologues et des gens spécialistes en culture matérielle, qui consiste finalement, comme on le fait pour des personnes, c'est-à-dire de faire la biographie d'un objet, d'essayer de comprendre où il a été fabriqué, de retracer son parcours, sa vie au fond, et puis de voir comment il a été utilisé, réutilisé. Dans ce cas-ci, ce qui m'a paru vraiment intéressant, c'était de voir l'objet, parce que c'est des objets qui participent à un échange interculturel, hein, qui sont des objets européens utilisés par des Amérindiens qui sont d'une culture complètement différente, ou des objets amérindiens utilisés par les Européens. Donc ça permettait de faire cette biographie des objets, mais en les étudiant comme des objets interculturels, qui participent à un échange interculturel. Ce qui était aussi pour moi très intéressant et je dirais très excitant, parce que la plupart des études qui ont porté sur la biographie des objets ont porté sur le parcours des objets à l'intérieur d'une même culture. Mmh. Voyez. Donc là, on pouvait essayer de voir comment ces objets, comment les objets vont prendre des nouvelles significations, changer de sens lorsqu'ils passent d'une culture à une autre. Mmh. Et de s'intéresser à des phénomènes comme l'appropriation culturelle, la recontextualisation culturelle, comment les objets vont être recontextualisés, hein, dans leur nouvelle culture. Alors, et puis bon, ça a permis de voir un petit peu aussi, d'étudier un peu l'altérité, hein, les représentations de l'autre et comment les objets vont participer à ces phénomènes-là de représentation et d'appropriation de l'autre. Ouais.
Et en vous lisant, on comprend que le terme « objet » est assez large et complet. Puis on peut même aller vers les objets animés, que sont par exemple la morue ou les autres poissons. Oui. La morue en particulier, parce que ça a joué un grand rôle dans ces contacts entre Européens et Amérindiens à cette époque. Donc comment est-ce qu'on peut parler de la morue selon cette biographie des objets, là?
Oui, alors... Bon, dans la culture matérielle, les aliments sont considérés comme des objets, donc comme faisant partie de la culture matérielle. C'est une catégorie qui est déjà, disons, définie par le champ d'études. Et puis, dans ce cas-ci, je me suis beaucoup intéressé à la morue parce qu'en fait, c'est le premier produit qui était vraiment identifié au Nouveau Monde. Ça revient clairement dans tous les documents, qui a été consommé massivement en France. Hein. Donc, c'est le premier produit du Nouveau Monde qui est exploité exploité par des pêcheurs français, ramené en France et consommé massivement en France. Juste pour vous donner une idée, à partir des années 1540, on commence à trouver plusieurs dizaines de navires armés tous les ans à Bordeaux. Dans les années 1560 et 70, c'est 60, 65, et on en a trouvé autant à La Rochelle, autant au Havre et à Rouen. Donc, juste ces trois ports armaient à peu près plus de 150 navires par année. Et on sait qu'il y a à peu près 40 ports qui arment des navires pour le Nouveau Monde à cette époque. Les autres, il y a beaucoup de petits ports qui arment juste un ou deux navires, mais quand même, on a retrouvé après ça des documents en Angleterre qui ont été produits par des espions anglais qui surveillaient l'activité française parce que justement, eux aussi voulaient s'immiscer dans cette pêche. Les statistiques qu'ils donnent varient entre 350 et 500 navires français par année. Mmh. Vous voyez, donc c'est une flotte énorme, hein, vraiment énorme. Et tous ces bateaux ramenaient essentiellement de la morue salée, séchée. Et on voit, j'ai pu aussi travailler avec par exemple, des livres de compte d'hôpitaux et puis aussi des péages sur les rivières, par exemple sur la Dordogne et la Garonne. Et là, on voit le poisson remonter les rivières très rapidement, en très grande quantité. Et puis là, très rapidement, à partir des années 1540-50, la morue est en première position partout. C'est vraiment le produit qui va remonter les rivières le plus avec le sel, hein, la morue et le sel. Et là, on voit que la consommation de la morue en France se répand à une vitesse fulgurante, hein, vraiment fulgurante.
Et pourquoi parler, en parlant de la morue, là, de consommation symbolique du territoire?
Oui. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui, tout d'un coup, a fait en sorte que les Français ont pris autant goût à la morue et pourquoi est-ce qu'ils ont tout d'un coup commencer à consommer ce poisson en aussi grande quantité. Parce qu'en fait, la morue était un peu connue à la fin du Moyen Âge, mais c'est de la morue qui venait de la Norvège, qui s'appelait du stockfish, hein, qui était séché, mais en très petite quantité, et on ne l'appelait pas morue. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'elle commence à arriver de Terre-Neuve, on va la renommer morue, et on va toujours, dans tous les documents que j'ai trouvés, que ce soit les actes notariés, que ce soit les registres de comptabilité des hôpitaux ou encore les payages sur les rivières, on va toujours préciser morue des Terre-Neuve. Hein? Donc, on l'identifie toujours dans les livres de recettes aussi, dans les premiers livres de recettes français du début du 17e siècle, par exemple, on va toujours l'identifier comme venant de Terre-Neuve et ou bien les Terre-Neuve. Alors, ça devenait pour moi évident que ce produit était identifié au Nouveau Monde et que ça, c'est certainement cela qui a stimulé sa consommation. Hein. C'était une façon de consommer un produit qui venait du Nouveau Monde, hein, de s'approprier un peu à travers cette consommation, hein, cette partie du Nouveau Monde que la France réclamait déjà de toute façon. Et c'est un phénomène, bon, je dirais, qui est assez connu dans les études sur l'anthropologie de la consommation, hein, dans les études qui ont été menées par différentes personnes, Mary Douglas, par exemple, une Britannique. Lorsque les gens consomment des produits, ils ont tendance à vouloir les identifier à leur lieu d'origine. Et c'est par la consommation, il y a comme une appropriation géographique du lieu d'origine du produit. On retrouve ça avec le sucre qui vient des Antilles, les bananes aussi, même aujourd'hui, vont être souvent annoncées dans les supermarchés avec des images qui renvoient aux tropiques.
Hein, et donc, les crevettes de Matane, par exemple.
Oui. Donc, qui viennent de loin, qui sont exotiques et qui... oui, comme les crevettes de Matane, hein, on a l'impression de s'approprier cette partie du territoire.
Et il y a certains rites aussi qui sont liés à la consommation de la morue en France, selon les différents groupes sociaux qui la consomment.
Oui. Alors, c'est sûr que c'est rythmé en grande partie par le carême, hein, la pratique du jeûne. Parce que, bon, selon le calendrier, l'ancien calendrier catholique de l'époque, il y a à peu près 155 jours de jeûne dans le calendrier catholique. Mais la grande consommation est surtout pendant le carême où on interdit la consommation de viande, mais le poisson est toléré. Et donc, c'est à ce moment-là que le gros de la consommation se fait. On remarque que la morue est triée en fonction de sa qualité. Alors, il y a 7 catégories de morue, la grosse, la moyenne, la petite, celle qui est effritée, etc. Il y a des pièces aussi, des parties de la morue. Le dos est considéré supérieur à la queue ou encore aux parties du ventre. Donc, il y a toute une sociologie de la consommation, je dirais. Hein, la noblesse, les bourgeois vont consommer les grosses pièces et puis les parties les plus goûteuses, en quelque sorte, comme les dos. Les flanchets sont plutôt réservés pour les gens, pour les gens plus pauvres. Et puis, les restes, ce qu'on appelle les restes morues, vont être destinés aux esclaves aux Antilles. Hein, peut-être pas beaucoup au 16e siècle, mais à partir du 17e siècle, hein, c'est cette partie du poisson va être dirigée plutôt pour nourrir les esclaves. Alors, c'est intéressant de voir là, qu'il y a toute une sociologie de la consommation aussi qui se met en marche et qui explique que finalement, et ça c'est intéressant, quand il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché, souvent la consommation va se développer de façon très très rapide et partout. Hein, et on va s'organiser pour que tout le monde puisse en manger. Et c'est pour ça que je soutiens dans le livre que ça devient une consommation qui est vraiment nationale, hein, qu'on retrouve partout en France et qui va être mangée par tout le monde, finalement.
Mm-hmm. C'est passionnant tout ça, mais avant de continuer avec les trois autres objets dont vous parlez dans votre livre, on va y aller en pause publicitaire. Et avant, on parle de morue, on va y aller avec la chanson « La morue du porc », une chanson humoristique, ici interprétée par les quatre barbus.
« C'est une fille de la mer, des cheveux roux, des grands yeux verts,
des bras, des hanches de sirène.
Un torse vraiment olympien, avec des lolos brigidiens.
Brigidiens,
brigidiens,
un port de reine. Et les farouches Terre-Neuve, quand ils revenaient de là-bas,
leurs bateaux chargés de morue,
comme elles savaient les accrocher dans les filets bleus du péché au coin de la rue.
Une morue pêchant un pêcheur,
beau thème pour un prédicateur,
on pourrait en faire des gloses.
Mais il y avait chez les Terre-Neuve
un pur,
un dur,
un gars comme ça,
comme ça, plein d'équimoses,
qui a dit ça peut plus durer, cette morue-là, je vais la saler pour en débarrasser le monde.
Il a mis son bel habit neuf, cousu dans un beau drap d'Elbeuf.
Salut la blonde!
Salut, qu'elle a fait, t'es le roi, t'as des biceps, monte avec moi.
Il a monté à ses mises nues. Elle était belle comme le soleil.
Il avait jamais rien vu de pareil.
Ah, ah, une statue.
Il en est tombé d'un coup de sang, raide mort à ses pieds ravissants.
Alors, elle a fondu en larmes. En voyant la mort de si près, elle comprenait ce qu'elle avait fait avec ses charmes.
Alors d'un cœur bien repentant, avec l'argent de ses clients,
à sa patronne Marie-Madeleine,
elle a élevé un reposoir où ce qu'elle va méditer le soir,
où ce qu'elle va méditer le soir, l'âme sereine.
Mais avec l'argent qui restait, ça faisait un joli paquet.
Elle a ouvert sur la falaise un hôtel joliment garni où l'amour se fait, comme on dit, à la française.
Elle le gère avec dignité, à cheval sur la moralité,
planant au-dessus des contingences.
Ses beaux yeux levés vers le ciel, elle assure pour le temporel,
le temporel,
le temporel,
sa subsistance.
Ce qui prouve bien qu'ayant fauté, on peut toujours se racheter par une conduite exemplaire.
Retenez bien cette leçon
et l'adresse de rue des Pigeons
à Saint-Lunaire, à Saint-Lunaire.
Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis, dès 13h, syntonisez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3.
Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, de l'improvisation, du théâtre, de la danse, du cinéma et même du monde qui passe à TV! Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de... gratuit! Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message.
Savais-tu que les employeurs sont prêts à t'offrir dès cet automne un stage ou un emploi pour plus tard dans l'année? Intéressant, non? Ne manque pas ta chance. 170 employeurs seront rassemblés au pavillon Desjardins pour le Carrefour de l'emploi. Le mercredi 2 octobre prochain, viens les rencontrer entre 10h et 16h et trouve dès maintenant ton stage ou ton emploi en fonction de tes disponibilités.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
Tire le balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Quoi de mieux que de s'installer confortablement devant un bon film pour finir l'été en beauté? Le Festival de cinéma de la Ville de Québec est de retour du 12 au 21 septembre. Durant 10 jours, le FCVQ passe des vieux classiques qu'on se tanne jamais d'écouter jusqu'aux nouveautés que tu ne veux pas manquer. Des tapis rouges, des vedettes, des parties, bref, du glamour puis ben du fun en gang. Pour plus d'informations, rends-toi sur le fcvq.ca. Présenté par Québécois, alimenté par Resto Plaisir et invité par le Concorde.
La fin de semaine arrive et vous avez besoin de suggestions pour accompagner votre souper du samedi? L'Espace JC est là pour vous donner des conseils et vous en apprendre plus sur les vins, bières et spiritueux. En compagnie d'experts, nous vous divertirons tout en humour et sans prétention pour votre plus grand bonheur. L'Espace JC, c'est tous les vendredis dès 22h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Terre en vue, Capitaine Cartier.
Ha! Quoi demander de mieux? Le cap brille de 1000 diamants. Il s'agit de l'endroit d'où proviennent les fameuses ondes de 3600 secondes d'histoire.
Donc Jacques Cartier qui nous ramène à notre 16e siècle. On a parlé de ce premier objet de grande importance là, pour les qu'est la morue pour les contacts entre Français et Amérindiens. Et là, après s'être intéressé à la morue, les Français se mettent à s'intéresser au castor. Là. D'où vient cet appétit là, pour le castor en France?
C'est sûr que... la pêche à la morue a été la première grande activité, mais bon, ces pêcheurs s'installaient sur les côtes de manière saisonnière et ils se sont installés, ils ont installé leurs opérations, leurs établissements sur un grand territoire qui va du détroit de Belle-Île jusqu'aux côtes du Maine, je dirais jusqu'au sud des côtes du Maine et même du Massachusetts. Forcément, ils ont eu des contacts avec les Amérindiens. Alors, très tôt, on trouve des traces de petits échanges, mais... à l'échelle de pacotille, je dirais, où les pêcheurs et probablement les officiers mariniers, hein, le capitaine et puis les officiers des bateaux tiraient profit de ce petit commerce. À partir des années 1550-60, là, on commence à trouver des navires, des bateaux, des petits navires qui sont armés spécialement pour la traite. Hein, parfois, il va y avoir, on va mentionner dans les armements pour la pêche, qu'ils vont aller pour la pêche et la traite, hein, ou la chasse à la baleine et la traite. Les Basques sont assez actifs dans ce commerce, mais les Normands et les Malouins tout autant. Là, on voit qu'il y a une spécialisation dans l'activité et qu'il y a dorénavant des navires qui sont armés spécialement pour cette activité. Au début, ça se passe le long des côtes du Cap-Breton, la Nouvelle-Écosse, plutôt dans à l'embouchure de la rivière Saint-Jean, aujourd'hui Saint-John's, New Brunswick, Saint-Jean de l'époque, et puis aussi à l'embouchure de la rivière Penobscot. C'est une région où il y a énormément de fourrures, de castors, mais aussi des peaux d'orignaux. Le caribou, les martes sont aussi très recherchées. On trouve ces peaux-là sur ces navires. À partir des années 1580, on voit des navires qui commencent à aller dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Le golfe et surtout l'estuaire du Saint-Laurent pour traiter avec les Amérindiens. Ça, c'est intéressant parce que jusqu'alors, on n'a pas vraiment de traces très précises d'activité dans le Saint-Laurent. Mais là aussi, on commence à trouver des navires qui viennent. Bon, par rapport à la pêche à la morue, c'est beaucoup moins important. On a trouvé peut-être 50 à 60 navires pour la deuxième moitié du 16e siècle, surtout les années 1590, vous voyez, pendant 30 ans. On constate un déclin. On a remarqué que, bon, j'ai pu travailler aussi avec les actes notariés de Paris parce qu'on avait trouvé des marchands de Bayonne et de Bordeaux qui allaient apporter des fourrures à Paris. Et puis là, on a vu que les principaux... les pelletiers parisiens étaient les pelletiers du roi et de la cour. Et en 1583, on a trouvé un document où Henri IV achète un chapeau de castor. Et donc, on voit qu'il y a une mode qui commence à se développer la mode du chapeau de castor, qui va avoir un entraînement important sur l'activité. Il y a deux fourrures qui vont être vont commencer à être très recherchées. Le castor pour fabriquer des chapeaux, aussi un peu utilisé pour doubler des vêtements, des manteaux pour les femmes, pour les hommes. On a même trouvé des couvertures, des couettes qui sont faites en fourrure de castor. Mais c'est surtout pour fabriquer des chapeaux. Et il y a les martes aussi qui sont utilisées pour faire des moufles pour les femmes, qui sont utilisées pour tenir les mains chaudes. Hein. Alors ça, c'est les martes qui viennent du Canada. Donc là, il y a une correspondance entre le développement de ce commerce et le développement de la mode des fourrures canadiennes, je dirais nord-américaines en France.
Et est-ce que le castor, en comparaison avec la morue, implique des types de contacts différents avec les Amérindiens?
Oui, alors tout à fait. Alors, c'est ça, je pense que le castor, la morue, finalement, est une activité qui se pratique de manière saisonnière sur les côtes, donc un peu en périphérie du cœur du continent, alors que le castor va conduire les Français à pénétrer à l'intérieur du continent, parce que les fourrures de castor sont plutôt à l'intérieur que sur les côtes, et puis va les amener à développer leur contact avec les Amérindiens, parce qu'ils vont compter sur les Amérindiens pour leur indiquer les bons endroits de chasse, pour faire la chasse, effectivement. C'est beaucoup les Amérindiens qui, en fait, faisaient la chasse, dépeçaient les peaux et les vendaient aux Français. Hein. Les Français étaient surtout des commerçants, des intermédiaires. Peu de Français pratiquaient la chasse elles-mêmes. Hein. Ils comptaient sur les Amérindiens. Donc, ceci a conduit à développer des liens et des alliances avec différents groupes amérindiens pour se procurer ces fourrures.
On parle souvent du castor au niveau de la mode, les fameux chapeaux en peau de castor, mais est-ce que les Amérindiens comme les Européens pouvaient consommer la viande de castor aussi?
Oui, oui, absolument. Alors, les Amérindiens consomment la viande de castor de la même manière, bon, peut-être qu'elle était un peu moins cotée, je dirais, que l'orignal et le caribou et puis le chevreuil, mais dans les relations de voyage de cette époque, surtout bon, du début du 17e siècle, tous les voyageurs évoquent cette idée que les Amérindiens consomment le castor. Les colons français commencent à le consommer également. Ils ont l'air de le priser, comparant son goût à celui du veau ou du mouton. Et puis, apparemment, que la pièce la plus délicate, c'était la queue du castor, hein, qui était vraiment très prisée par les gastronomes de cette époque. Voilà. Le castor était aussi, la peau de castor était assez prisée chez les Amérindiens, puisque dans les relations de voyage, on a beaucoup de voyageurs, l'escarbot, les jésuites vont dire que souvent les femmes amérindiennes, lorsqu'elles se marient, elles vont s'habiller avec des robes de castor, ou des fois pour des activités cérémoniales, hein, la robe de castor va être portée. Donc on voit que c'est une peau qui a déjà chez les Amérindiens une certaine valeur cérémoniale et symbolique.
Et d'ailleurs, les Amérindiens disaient que le castor fait tout. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
Alors ça, on retrouve ça dans les relations du père jésuite le jeune. C'est une expression qu'ils utilisaient souvent pour dire que finalement, avec le castor, ils pouvaient tout acheter, hein, et que ils sont un peu surpris de voir que les Français sont si attirés par ce qu'ils sont prêts à échanger tout ce qu'ils ont, y compris les objets les plus précieux comme des objets de fer, du cuivre et puis des perles de verre qui sont très prisé chez les Amérindiens. Il y a aussi ce qui est intéressant, c'est que on constate qu'assez rapidement, le castor n'est pas juste utilisé comme élément du vêtement pour faire fabriquer notamment des chapeaux, mais il est utilisé aussi pour penser, pour réfléchir à la colonie, hein, pour penser la colonie, puisque les voyageurs constatent que c'est un animal qui est très entreprenant, qui est acharné au travail, qui est aussi intelligent parce qu'il sait construire des digues et réguler le niveau de l'eau au centimètre près, hein, pour pas que l'eau inonde ses cabanes. Donc, il est considéré, on le compare à un architecte très souvent. Et puis, on constate aussi qu'il est très organisé socialement, c'est-à-dire qu'il vit en colonie. Il y a parfois des regroupements de plusieurs centaines de castors qui vont construire des barrages ensemble et qui va devenir d'ailleurs, sous la plume de beaucoup de voyageurs, un modèle d'organisation sociale et sociopolitique pour la colonie. Et les Français vont reprendre d'ailleurs cette notion dans toutes les relations de voyage jusqu'à Charlevoix. C'est quelque chose qui est évoqué, hein, cette intelligence du castor et le castor qui doit être pour la colonie un modèle pas juste d'organisation sociale, mais d'organisation politique. Là, on tend, on va jusqu'à dire que le castor vit dans une forme de gouvernance qui est celle de la République. Parce qu'il consulte, je veux dire, il n'y a pas vraiment des hiérarchies, il y a des consultations et il fait tout de façon consensuelle.
Et là, bon, on a parlé de deux objets qui sont quand même assez connus, qui sont même considérés comme on parlait de produits moteurs là, pour la morue, le castor, qui tout au long de la Nouvelle-France vont vraiment comme être le principal. Le principal intérêt des Européens pour explorer le territoire. Mais il y a aussi, bon, les flux d'objets ne se font pas à sens unique. Hein. Il y a aussi des objets qui sont donnés en échange aux Amérindiens, qui sont donnés en échange aux Amérindiens pour avoir ces castors-là, par exemple. Et il y a un métal particulièrement qui est très prisé des Amérindiens. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors c'est le cuivre. Alors c'est le métal qui est le plus recherché par les Amérindiens. Pour la bonne et simple raison que c'est un métal précieux chez eux. Le cuivre est considéré comme le métal le plus précieux par pratiquement tous les groupes de l'Amérique du Nord. Ça tient à sa couleur rouge.
Et même plus que l'or.
Ah oui. Même déjà dans Verrazzano et puis Cartier, on constate que bon, les Amérindiens sont pas très attirés par l'or ni par l'argent, mais que le cuivre les intéresse beaucoup. Ça étonne les Européens parce que le cuivre est plutôt en troisième position après l'or et l'argent. Et puis les Amérindiens sont très très friands de ce métal rouge qu'on retrouvait à l'état naturel en Amérique du Nord, mais en très, très petite quantité. Il y avait, les archéologues ont retrouvé des sources d'exploitation au nord du lac supérieur, un peu en Acadie et puis en Pennsylvanie, mais il n'y avait pas énormément de sources. Et c'est un objet qu'on trouve très, très peu sur les sites préhistoriques. Puis là, avec l'arrivée de ce métal qui est apporté par les pêcheurs, parce que les pêcheurs avaient des chaudrons pour cuire leurs aliments à bord des navires, et les baleiniers basques, eux, avaient des énormes chaudrons qu'ils utilisaient pour faire fondre les graisses de baleines. Et là, on a pu constater à Bordeaux, par exemple, on trouve des contrats notariés où les Basques notamment, mais aussi les Normands, achètent des centaines de chaudrons à la fois, jusqu'à 400 et 600 par voyage, hein, embarqués sur les navires. Et on retrouve ces objets-là sur les sites amérindiens un peu partout en Amérique du Nord-Est et notamment dans des contextes de sépulture.
Et pourquoi les Amérindiens sont-ils si friands de ce cuivre?
Oui, alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est lié au fait que c'est un métal qui est rouge, qui rappelle la vie, le sang, qui est toujours associé à la force. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on souvent les chaudrons étaient utilisés pour cuire les aliments, mais seulement lors de fêtes. Hein. C'était vraiment un objet cérémonial qui était sorti dans les relations de voyage. Les voyageurs le constatent, on va sortir les chaudrons seulement lorsqu'il y a des grandes fêtes, dans des occasions très spéciales. Et la plupart, comme je l'ai dit, est considéré tellement précieux qu'on estime qu'il est pas... Il est trop précieux pour circuler sur Terre. On va les enterrer avec les morts pour qu'ils puissent servir, comme le disent certains voyageurs ou même des jésuites comme Brébeuf, qui disent que c'est pour qu'ils puissent s'en servir dans l'au-delà. Hein? Et pour... Ils sont aussi découpés, oui. Peut-être juste un dernier point, ils sont aussi découpés. Il y en a qui sont découpés pour faire de l'ornementation corporelle, mais c'est généralement pour faire des boucles d'oreilles, des bracelets, autant pour les hommes que les femmes que pour les enfants. Les enfants sont... On retrouve ces morceaux de cuivre surtout chez les enfants et c'est considéré comme une façon de fortifier et de protéger les enfants.
Et pourquoi parler des chaudrons de cuivre et du cuivre en général là, comme des objets de médiation interculturelle?
Parce que je pense que lorsqu'on étudie l'échange interculturel, c'est à peu près jamais des objets qui sont absolument inconnus par l'autre culture qui sont adoptés. C'est des objets qui sont déjà connus, mais qui sont généralement très rares et qui ont une grande valeur symbolique et cérémoniale.
Parce qu'on avait des chaudrons quoi, en terre cuite, en argile?
Oui, c'est ça. Les Amérindiens avaient des chaudrons plutôt en poterie, faits en terre cuite. Jamais ils avaient eu des chaudrons comme ça en cuivre, en métal précieux. Et puis même dans certaines relations, comme par exemple chez l'escarbot, je pense que c'est l'escarbot qui retourne en France accompagné d'un chef Micmac, Mambertou. Et ils vont dans le quartier des Chaudronniers à Paris. Et là, Mambertou est très impressionné et il demande « Est-ce que c'est ici qu'habite le roi de France? »
Il y a aussi un autre objet qui est plus, plus...
ornemental?
Je voulais dire qui est... qui est plus prisé, là, mais je suis obligée de le dire, mais qui est un objet dont les Amérindiens sont encore plus friands que le cuivre, ce sont les perles. Pourquoi les Amérindiens sont-ils si intéressés par les perles, voire même plus que les Européens?
Oui, parce que... Là aussi, on constate que chez les Européens, comme les chaudrons de cuivre est plutôt un objet usuel qui n'a pas une grande valeur symbolique, les perles étaient très connues en Europe depuis longtemps, mais ils n'étaient pas très, très prisés parce que considérés comme des substituts aux pierres précieuses. Il n'y avait pas du tout de comparaison entre la valeur de perles de verre et les pierres précieuses comme les diamants, les rubis, etc. Les Européens s'en servaient pour fabriquer des rosaires ou encore comme ornementation du vêtement. Les chapeaux, souvent on les mettait sur les gants, sur des ceintures. Mais je pense que ce qui a beaucoup attiré les Amérindiens, c'est le fait que c'était du verre et que le verre n'est pas connu en Amérique du Nord. Vous voyez, ils utilisaient des perles comme ça, mais qui étaient plutôt des roches qui avaient été retravaillées, du cristal de roche ou bien des fois des perles en poterie qui avaient été fabriquées et puis teintes pour leur donner une certaine couleur. Mais c'est un objet qu'on peut avoir en très grande quantité. On a trouvé un contrat à Bordeaux, par exemple, où un capitaine de navire basque en achète 50 000. Donc, c'est quand même des quantités importantes. C'est rond, c'est poli. On peut les avoir dans des couleurs très variées. On voit qu'ils sont très attirés par le blanc et le bleu. Ce sont des couleurs qui les attirent beaucoup parce que c'est beaucoup ces couleurs-là qui apparaissent sur les premiers sites de contact. Et je pense que c'était aussi quelque chose qui était associé à l'œil et à la cognition parce que en fouillant dans les dictionnaires hurons-français qui ont été établis par les jésuites, j'ai constaté que le mot que les Amérindiens vont donner à cet objet qui n'existe pas dans leur culture, donc ils ont été obligés d'inventer un mot pour le désigner, c'est le mot aquina qui veut dire œil. Donc, il y a un lien qui associe cet objet à l'œil. Et peut-être que les perles bleues aussi les attiraient beaucoup parce que les Amérindiens n'avaient pas les yeux bleus. Les Européens, oui. Et je pense que ça devait être quelque chose qui les fascinait, qui était pour eux exotique.
Et comment est-ce qu'ils s'approprient ces objets-là?
Oui, alors les perles, un peu comme le cuivre, vont être utilisées essentiellement pour l'ornementation corporelle. Alors ça, c'est intéressant parce que bon, les gens qui ont travaillé sur le vêtement, sur l'anthropologie du corps, par exemple, ont déjà constaté depuis longtemps que le corps est le premier lieu d'exposition. Hein, les objets les plus précieux que nous avons, c'est vrai dans la plupart des cultures, on va les exposer sur notre corps, hein, parce que hein, c'est le premier lieu d'exposition d'objets. Et ici, les Amérindiens vont d'abord s'en servir comme ornementation corporelle, mais ils ne vont pas juste utiliser les perles pour orner le corps. Ils découpent les chaudrons pour faire des objets divers, souvent des perles tubulaires. Ils vont rouler des morceaux de cuivre pour faire des perles tubulaires qu'ils vont porter sur des sacs. Pour fabriquer des bracelets. Il y a aussi... ce qui est intéressant, c'est que... ces objets, comme les objets de cuivre, vont suivre les personnes dans la tombe. Mm. Hein? Et à peu près 97% de tous ces objets de traite de cette période vont atterrir dans des tombes, hein? Vont être enterrés avec les morts. Mm.
Et justement, bon, ça nous amène... Bon, l'émission tire à sa fin, mais bon, vous mentionnez justement de sépulture. Hein, qui dit sépulture, ben, dit archéologie. Hein, ce sont des perles donc, qu'on peut trouver et peut-être exposer dans des musées. Donc, quelle problématique ça implique, ça, c'est la muséification de ces objets-là aujourd'hui? Là.
Oui, alors, ben, je suis content que vous me posiez cette question parce que, bon, j'ai consacré ma conclusion à parler de l'utilisation que nous faisons de ces objets aujourd'hui. Parce que, bon, ce sont des objets qui ont participé à la construction d'alliances, à des négociations d'identité et de relations. C'est une façon de nouer des relations entre les Français et les Amérindiens. C'est des objets qui ont été très fortement valorisés, qui ont acquis une valeur symbolique extrêmement importante chez les groupes amérindiens, au point où ils les ont enterrés avec leurs morts, sans doute en pensant qu'ils allaient reposer là jusqu'à... pour l'éternité. Mais bon, à partir du 19e siècle, les archéologues commencent à fouiller ces sites, y compris les sépultures, vont trouver ces objets, vont les intégrer à des collections archéologiques et muséologiques. La plupart finissent dans les musées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, maintenant, de plus en plus, les Amérindiens demandent de rapatrier ces objets parce que, en soulignant que ce sont des objets sacrés, ils ont été enterrés avec leurs morts. Ils estiment ils veulent les rapatrier. Et c'est ce qui se fait. Beaucoup de musées acceptent de remettre ces objets aux groupes amérindiens. Donc, on voit que la vie de l'objet n'est pas terminée. Mm. Hein, la vie de l'objet continue aujourd'hui à participer, finalement, aux négociations entre ces deux groupes. Et puis, ce qui se passe souvent, c'est que les Amérindiens vont re-enterrer ces objets, vont refaire des sépultures pour les re-enterrer. Ou encore, de plus en plus, ils ont leur propre musée et vont les intégrer dans leur collection muséale. Hmm. Donc, l'objet n'est pas mort, il vit encore aujourd'hui.
Continue de vivre, ben oui. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Turgeon, c'était passionnant. Puis, ben, on invite les lecteurs à se procurer votre ouvrage « Une histoire de la Nouvelle-France, français et amérindien au 16e siècle » chez Bellin Éditeur, donc disponible à peu près pas mal dans toutes les librairies, j'imagine. Je remercie Gilly aussi, qui était à la co-animation. Et on vous souhaite une bonne soirée. On se laisse en musique avec un compositeur de l'époque de Jacques Cartier, Toineau Arbeau, « Belle qui tient ma vie ».